Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les grandes voix. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour, Pierre.
Au programme de cette émission, la route, non pas celle de l'écrivain Cormac McCarthy, mais celle d'Emmanuel Macron. Même si l'image du livre est tentante, une apocalypse, un monde dévasté, des survivants qui errent sur une route. Il reste 4 ans de mandat. Le président est à 26% d'opinion favorable. Il est accueilli par des casseroles à chaque déplacement. Comment peut-il rebondir? Comment peut-il encore espérer réformer, transformer le pays, comme il disait en 2016? Nous poserons la question aux grandes voix. L'incendie des retraites n'est pas encore éteint, qu'une nouvelle polémique se prépare dans les rangs de l'éducation nationale. Le ministre Pape Ndiaye revient à la charge en proposant tout un train de mesures dans les écoles privées, en commençant par la mixité sociale sous peine de sanctions pour les établissements. Le système des écoles privées est-il menacé? L'éducation de nos enfants est-elle en danger? Nous le verrons. Et puis cette manifestation surveillée contre la future autoroute A69, projet vieux de 25 ans, mais jamais réalisé. Les associations écologistes dénoncent un chantier inutile et destructeur. Les élus locaux, un désengorgement du trafic dans la région. Faut-il craindre un nouveau week-end de violence comme à Sainte-Soline? Débat en fin d'émission. Vous avez le programme, les grandes voix, c'est parti. 15 millions 100 000 téléspectateurs lundi soir. Autant dire que l'allocution du président était attendue, très suivie, 13 minutes avec un petit mea culpa et un plan d'attaque pour les 100 jours qui viennent. Trois chantiers, travail, justice et progrès. Vaste programme. La phase B, c'était d'aller au contact des Français. Et là, c'était la douche froide, en tout cas le concert de casseroles. C'est un ustensile de cuisine devenu un gimmick toute cette semaine pour les déplacements ministériels. Des échanges tendus, notamment en Alsace, à Sélestat. Est-ce que la rupture est consommée entre les Français et Emmanuel Macron, Michel Cotta?
Moi, je me suis posé la question lorsque j'ai vu que Emmanuel Macron remontait immédiatement sur son cheval et le lendemain d'un épisode douloureux était capable de remonter voir les Français. Moi, j'ai trouvé que c'était trop rapide et qu'il aurait pu peut-être se donner une semaine, le temps que l'apaisement revienne. Ceci étant, il a choisi ça parce que c'est son mode de fonctionnement. Parce qu'il annonce, il pense qu'en annonçant chaque jour 230 € de plus pour les professeurs, pendant que Madame Borne annonce autre chose et que Monsieur le Maire une troisième, il pense au fond que il peut avoir ce qu'il a eu sur les gilets jaunes d'une autre manière. Là, il va pas voir les élus locaux, mais bon, maintenant. Moi, je ne suis pas impressionné par le concert de casseroles. Je trouve ça, après tout, chacun a le droit d'avoir des concerts de casseroles. Et surtout, je me dis qu'il ne faut préjuger de rien. Jamais aucun homme politique est mort. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'a pas à se représenter. Et ça, on fait tous les calculs en se disant « il va se représenter ». Il ne va pas se représenter, tout change et quelque part il peut se permettre beaucoup de choses.
Gérard Carrérou.
Oui, Pierre, puisque vous aimez les comparaisons littéraires, moi, il m'a fait penser à L'homme pressé, oui, de Paul Morand, titre de ce beau livre de Paul Morand. Et c'est d'ailleurs le tempérament, comme l'a dit Michel, c'est le tempérament du chef de l'État. Au fond, ce n'est pas un homme d'apaisement, c'est un homme de clivage. C'est un homme de clivage. Et là, c'est exactement ce qu'il a choisi. D'aucuns, et peut-être même dans son entourage, lui avaient dit « Attention, il faut peut-être y aller un petit peu mollo, il faut attendre un peu, il faut les cajoler un petit peu avant de... » Non, il a dit « Non, pas question, je fonce, je ne fais pas la moindre concession, j'enjambe et je vais gagner. » Alors, ça passe ou ça casse. Vous me direz que c'est passé en ce qui concerne le vote, finalement, ou en tout cas la ratification du projet retraite, puisqu'à la fin des fins, c'est passé. Je pense qu'il a fait une erreur quand même. C'est-à-dire qu'il va gagner l'estime de ses 25%, 25 ou 28% de macronistes qui le soutiennent depuis le début, sans barguigner depuis 6 ans. Ceux-là sont toujours là et il les stimule en disant « Voyez, il a foncé, il y est allé ». Je pense qu'il perd concernant les 3/4 des Français qui vont garder la rancune tenace. Et là, il y a des rancunes peu durables, enfin, dans l'histoire, il y en a qui sont tenaces. Je pense que celle-là sera tenace.
Charles Villeneuve.
Moi, je pense qu'il essaie une tactique en 2 points qu'il mène parallèlement. Première tactique, assumée politiquement. Il va à la rencontre des Français, avec un succès extrêmement mitigé. Il y a le concert des casseroles, puisqu'on en est aux références historiques. ça a donné lieu et naissance à un mot, le charivari, sous Louis-Philippe. C'est là que ça a commencé, le concert des casseroles. Alors, premier point, il va au contact des Français. Deuxième point, il fait faire une série de petits gestes concrets d'ajustement pour essayer justement de faire baisser la pression sociale. C'est ce qu'a dit Gérard, c'est ce qu'on dit aussi, ce qu'a dit Michel. C'est-à-dire, il envoie ses seniors du ministère, pas les, quasiment les deux ministres les plus connus, il y en a 40, hein, comme on ne sait oui. absolument pas ce que font les 39 autres, etc.
Les 38 autres.
Et les 38 autres, oui, puisqu'il y a deux. Donc, c'est Darmanin qui baisse et supprime les points sur les petits excès de vitesse. Et il s'est gardé pour lui la réévaluation de la rémunération des enseignants, qui sont les moins bien payés d'Europe, d'ailleurs, il faut le dire, en France. Et bon, et partant de là, justement, son objectif, c'est faire baisser la pression sociale. Va-t-il réussir ? Pour l'instant, c'est tout à fait en pointillé, on verra. Mais c'est un obstiné. Et là où je suis d'accord avec Gérard, c'est que c'est un homme de clivage, manifestement, un peu à l'anglo-saxonne. On le verra d'ailleurs par rapport à ce qu'il vient de faire sur le Conseil des sages en ce qui concerne la laïcité. C'est une provocation.
On verra tout à l'heure. Catherine Ney.
Oui, moi je trouve que c'était assez culotté, après avoir promulgué si vite la loi, enfin comme il le devait, dès le lundi soir, ouvrir cette allocution aux Français par un « Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'action, d'ambition pour la France ». Alors là, mais comment on peut oser dire ça, quoi ? Alors on lui a répondu, et partir dès le lendemain, en Alsace, où il a eu non seulement un concert de casseroles, mais surtout des invectives qui étaient quand même très, très, très... très, très violentes, et quand même avec des gens qui lui disaient « Vous avez un gouvernement de corrompus, vous allez bientôt tomber. » Bon, ben, moi, j'ai trouvé que sa force est de ne pas répondre. Hein. Il n'a pas dit qu'elle soit pauvre con ou des choses comme ça. Mais il avait l'air même d'y prendre plaisir. Seulement, pour les Français, c'est une image désastreuse. Et ça donne idée à ceux qui ont envie de manifester. Et ceux qui ont envie de manifester, c'est ceux qui ont le temps. Ce n'est pas les travailleurs. Les gens qui sont au travail, ils n'ont pas le temps. Donc, vous voyez, toute une série de Français, c'est d'ailleurs ceux qui sont dans les manifs, qui trouvent une certaine jouissance à être la foule et attaquer le patron qui vient, le président qui vient, et qui cherche un peu à se faire battre. Alors, c'est un jeu aussi entre « moi, je résiste, hein, j'ai pas peur de vous », et « vous, ils vont continuer ». Donc, comment on fait rentrer, comment on calme ? Est-ce qu'il a intérêt à aller en France ? D'ailleurs, la deuxième fois, il y a 600 CRS qui sont mobilisés. Vous voyez, les casseroles sont confisquées. D'ailleurs, il y a maintenant des tweets où on voit, j'ai découvert dans la cuisine que ma femme avait des armes de destruction massive parce qu'il y a des casseroles dans le placard. Vous voyez, on se moque un peu de ça. Vous voyez. Donc, voilà, comment on fait baisser la fièvre ? Et moi, je pense qu'il est plutôt un activeur de fièvre. C'est quelqu'un qui fait monter la température.
Gérard. Oui, moi, je voudrais revenir d'un mot sur la politique que je qualifie de politique des sucres. Hein, donne-moi un petit sucre. Le petit sucre, c'est-à-dire qu'il avait promis dans son discours.
Qui coûte des milliards.
Il avait promis dans son discours trois grandes réflexions sur trois grands chapitres. Oui. Et les trois chapitres sont effectivement essentiels puisqu'il y avait l'école, il y avait l'hôpital, il y avait la République et le maintien
de l'ordre.
La sécurité. Donc, mais face à ces trois objectifs fondamentaux pour notre démocratie et pour l'avenir de notre République, il a proposé des petites choses. Le petit truc qui fait plaisir à tout le monde. Tout le monde a eu des points enlevés pour... Bon, c'est un petit... Mais ça, on l'a déjà oublié. On l'a pris. Les gens l'ont reçu et ils l'ont déjà oublié.
Oh oui, on est content quand même. Hein.
Mais ça fait du bien par où ça passe. Mais c'est vite passé. Deuxième sucre. Prolongation de quelque chose qui est déjà existant. Ouais. Le bouclier tarifaire pour... Ouais. Très bien. Non mais c'est très bien, on le prolonge. Mais c'est pas une nouveauté pour les gens, puisqu'il y a déjà ce bouclier. Troisième sucre, ce qui était déjà prévu, les augmentations des professeurs. En essayant un petit peu de les faire miroiter à 500 euros, quand la plupart toucheront au maximum, effectivement, ce qui est déjà très bien, 200 euros.
Non mais... 232.
Mais c'était prévu, c'était déjà budgété. Oui. Donc je veux dire par là que cette politique, pour essayer de calmer calmer la colère, de calmer l'amertume de ces petits sucres donnés par les meilleurs ministres, effectivement, dont il a encore la responsabilité, effectivement, puisque...
Michel.
Voilà, donc c'est tout ce que je pense.
Oui, on pourrait citer aussi l'augmentation du SMIC, qui est sans arrêt plus importante. Bon. Mais moi, je me pose surtout la question, quand même, sur la réforme en France, quand même. Alors, j'ai trouvé un très beau papier dans l'Express de Sylvain Faure, qui dit que, au fond, on se demande si en France, la réforme pour les Français... Ça n'est que la perpétuation des dogmes, que c'est que ça n'est que l'extension de la dette publique, la prolifération du contrôle étatique, la gratuité élargie à de plus en plus de catégories de population. Et je me demande quand même s'il n'y a pas dans l'esprit français aujourd'hui, quelque chose qui se heurte à toute espèce de changement. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Parce que le monde va vite et que nous restons sur place.
Oui, parce que quand même, les Français sont des enfants gâtés. S'ils entendent ça, ça va les faire hurler. Mais c'est vrai que pour les Français, la réforme, c'est obtenir un avantage acquis en plus. Un peu plus, un peu plus d'argent, un peu plus de loisirs, un peu plus... Voilà. Pour plus de monde. Et dès qu'on veut un peu remettre un peu d'ordre par rapport à nos concurrents, par rapport aux autres pays qui travaillent plus, parce qu'à force de ne pas travailler, nous, on dit « Oh, mais on a une productivité formidable ». Ce n'est pas vrai. La productivité française a beaucoup baissé. Donc, vous voyez, donner alors qu'on produit le moins et qu'on est un des pays les plus endettés, c'est compliqué aussi.
Je vous propose de marquer une pause, on revient juste après avec les grandes voix. Il reste 4 ans au président Macron. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 4 ans? À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, il reste 4 ans au président de la République dans son mandat alors qu'il est à 26% d'opinion favorable dans un dernier sondage BVA. Charles Villeneuve.
Oui, tout à l'heure, je crois que c'est Catherine qui disait que l'endettement de la France est considérable, 3 000 milliards de dollars.
D'euros.
On est à Paris.
Oui. On est au même. Je ne sais pas pourquoi.
Oui.
Parce que c'est McCarthy qui m'a fait penser à...
Mais quand même, McCarthy. Vous allez tous relire la route grâce à moi.
À moi. Non, parce que la dette la plus importante d'Europe, nous avons la dette la plus importante d'Europe, elle a bondi, il faut le savoir, de plus de 700 milliards depuis 17. Ouais. C'est-à-dire depuis l'élection du président de la République à l'heure actuelle.
Et comme et le quoi qu'il en coûte.
Bon, et
mais
comme
les
taux d'intérêt remontent, et évidemment, que les agences de notation et les marchés financiers vont en tenir compte, il est très vraisemblable qu'on peut dire que la fête est finie. Mais surtout, je le trouve coincé, il est comme le cycliste, vous savez, qui croule sur un faux plat de pavé, comme dans Paris-Roubaix, avec le vent de face. Et vous savez que c'est très épuisant. Tous ceux qui ont fait du vélo le savent très bien, n'est-ce pas, Catherine? Bon. Et il est coincé, disais, par des données objectives, c'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité absolue, rappelons-le toujours à la Chambre. Il a une situation économique très délicate, on vient de le dire, et il s'est fixé des chantiers énormes, gigantesques. D'abord, l'hôpital, l'école, la déroute de l'immigration, celle de l'hémorragie de départ des policiers et de la gendarmerie. Personne n'en parle, mais la Cour des comptes vient de signaler que en 2022, la police et la gendarmerie ont dû augmenter le recrutement de 25 et 29%. C'est le nombre de policiers et de gendarmes qui enlèvent leur uniforme et qui repartent vers le civil pour trouver d'autres emplois très jeunes. Ça se passe au niveau des écoles de formation.
Aussi de l'armée
C'est vrai aussi de l'armée de terre, absolument. Certains quittent quasiment leur contrat. Il faut dire que et sur le plan
à 57 ans,
des émoluments. Et... Non, bien avant. Ils ont 25 ans dans l'armée de terre.
Ils arrivent et ils sont dégoûtés. Donc en fait, ils repartent. C'est-à-dire on casse des vocations. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait un engagement qui n'y a plus aujourd'hui.
Donc, si vous voulez, sa politique des petits pas est entravée par beaucoup de difficultés.
Michel Cotta. Non, je voulais juste ajouter que justement, quand on parle de la dette, ça explique la réforme des retraites. Au fond, il n'aurait pas tenu à ce point-là à la réforme des retraites si ça n'était pour montrer. Alors, je sais que ça fait, au contraire, ça fait peur à certains, mais pour montrer au marché financier qu'il était capable de faire ça, qu'il s'était capable de marcher, et sans doute, non pas pour réduire la dette, mais pour réduire les crédits.
Gérard Carrère.
Oui, moi, je voudrais enfoncer le clou sur un point que vous avez, que Charles vient de signaler. C'est l'absence, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais je le dirai peut-être encore la semaine prochaine, c'est l'absence de majorité parlementaire.
Bien sûr, oui. Bien sûr,
on
oui.
a vu qu'il n'y avait pas de majorité parlementaire sur ce grand projet, ou grand projet pour beaucoup, qui étaient les retraites. Il n'y aura pas de majorité parlementaire pour aucun grand projet. Alors, Madame Borne et d'autres ont une tactique qui consiste à dire « Mais c'est pas vrai, on a fait voter je ne sais combien de textes depuis le début, depuis un an. » C'est vrai, c'était toujours des petits textes, des petits trucs rikiki, utiles parfois, mais quand même rikiki, qui n'étaient pas des projets structurels, et on a pu le faire. Oui. Aucun grand projet structurel, dont ceux qui ont été cités, je prends l'immigration et quelques autres, ne pourront passer. Parce que pour qu'il passe, il faudrait qu'il y ait une majorité. Et qui pourrait être le Premier ministre qui pourrait rassembler une majorité dans les configurations actuelles? Probablement pas Mme Borne, mais qui d'autre? Il n'y a pas non plus de Républicains. Alors moi j'ai eu un rêve l'autre nuit, je dormais pas parce que j'avais un gros rhume, et je me suis dit, et s'il prenait Sarkozy? Et s'il proposait à Sarkozy d'être son Premier ministre? Peut-être, et je ne suis même pas sûr. Que ça marcherait. Je ne suis pas sûr que Sarkozy accepterait.
Est tombée de sa chaise.
Mais je ne suis même pas sûr que dans l'état actuel des choses, Sarkozy aujourd'hui ramènerait les 61 républicains de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il n'a pas...
Catherine.
Une majorité, ça passera par des élections, à un moment ou à un autre.
Je ne sais pas, mais en attendant, le 23 mars, à 13h, il avait confié à Mme Borne, qui avait, dit-il, toute sa confiance, alors qu'aujourd'hui, il ne le dit plus parce qu'elle a eu le tort de dire « Vous savez, le 49-3, on s'en servira pas. » Il a trouvé ça ridicule.
Oui. Bon, il la garde donc, quand même.
Voilà, mais il la garde jusqu'à... Attention. Il lui avait confié d'essayer d'élargir la majorité. Là, c'est fini. Il n'en leur parle plus. Là, il lance l'apaisement et tout ça. Et il donne rendez-vous le 14 juillet pour faire le bilan. Et là, certains pensent que, justement, le 14 juillet, après avoir vu que le bilan... que sera-t-il? Je n'en sais rien. En attendant, on travaille autour du président pour essayer de réinventer la quatrième sous la cinquième, c'est-à-dire de proposer essentiellement aux Républicains, mais peut-être à d'autres, de prendre un contrat sur un projet, par exemple l'immigration, et de faire chorus avec le gouvernement le temps de ce vote et
un
après de reprendre sa liberté.
Ça des majorités d'idées.
Voilà, c'est des
majorités d'idées. Cher Edgar Faure,
d'ailleurs, oui, mais enfin, il disait ça au moment où il y avait des majorités absolues. Alors, c'était plus facile d'en parler. Là, maintenant, on est au pied du mur, il n'y a pas de majorité. Alors, qui peut convaincre les uns et les autres? Ça, c'est... On va voir. Parce qu'aujourd'hui, l'agenda législatif, il est vide. Le ministre de la Justice de venir au Sénat sur son projet le 16 mai. Est-ce que ça marche ou pas? Il y a tout un tas de projets comme ça. Et quant à l'immigration, mais pour l'instant, on est vraiment... on ne sait pas. Or, ce sont des textes, et là, l'opinion le dit, c'est peut-être le sujet sur lequel les Français sont le plus d'accord. C'est-à-dire qu'il faut vite stopper et le faire. Et au moment où l'Europe donne de l'argent pour créer les murs autour de l'Europe, vous voyez,
continue.
On commence à prendre en Europe
conscience.
Oui, mais c'est le seul sujet où il y a une majorité de Français et où le président n'est pas d'accord. Lui.
On va continuer les grandes voix dans un instant. Je vous signale juste que cet après-midi, dès 17h sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Laurie Choleva, des dernières sorties au film en tournage. Laurie Choleva vous raconte chaque week-end le cinéma. Laurie Choleva reçoit cet après-midi Victoria Bedos, la scénariste de La Famille Bélier, qui signe sa première réalisation avec le film La Plus Belle pour aller danser. C'est en salle depuis mercredi. Clap, c'est le samedi à 17h et c'est sur Europe 1. A tout de suite sur Europe 1 avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrère, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Michel, il y a effectivement des tas de présidents qui ont voulu faire des réformes.
Oui, alors, je veux bien. Chacun fait faire des réformes.
Enfin, il y en a
surtout qui n'en ont pas fait. Alors, des grandes réformes, on parle des petites réformes qui passent, c'est ce que vient de dire Gérard. Mais des grandes réformes. On connaît des présidents qui n'en ont pas fait. Le deuxième quinquennat de Jacques Chirac, notamment, il s'est davantage occupé de l'unité du pays, peut-être qu'il n'y avait que des réformes
et de politique étrangère
qui restaient à faire.
Mais il
et
y avait
deuxièmement,
pas le choix.
Deuxième autre facteur, on parle de, il n'y a pas de majorité, mais il n'y a pas d'opposition. C'est ça aussi qui est très difficile sur que faire, quelle réforme présenter devant ces deux oppositions qui ne sont pas, j'ai vu hier qu'on s'est forcé beaucoup de montrer les différences entre l'extrême gauche et l'extrême droite à l'Assemblée nationale. En tout cas, elles ont un seul pouvoir, c'est de bloquer tout. Donc on est quand même dans un système ahurissant où il n'y a pas de majorité et pas d'opposition. Moi, je trouve ça très dangereux.
Alors, il y a une chose dont on dit toujours, il reste 4 ans. Mais en réalité, en 2025, c'est-à-dire dans un an et demi, 2 ans, il va y avoir le début de la campagne présidentielle sans Emmanuel Macron. Voilà. Donc, mais en fait, il reste un an et demi, 2 ans utiles.
Voilà, il va rester le président, mais à la bord d'une campagne. Vous savez, un président, qu'est-ce qui fait son moteur? C'est d'être un chef de guerre, d'entraîner un camp pour l'amener à la victoire pour la suite. Là, il ne peut pas, puisqu'il ne peut pas être un chef de guerre, puisqu'il ne se représente pas. Et c'est quand même, alors ça c'est la Constitution qui l'a voulu, la réforme, est-ce qu'il fallait le faire, limiter, j'en sais rien. Mais pour lui, ça veut dire qu'il n'a plus de rôle, il n'est plus le chef. Quoi qu'il dise, on dit mais vous n'êtes plus là dans 2 ans, c'est terminé. Donc c'est quelque chose qui est quand même très 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 difficile à vivre. Et ce qui est incroyable, c'est que dans 4 ans, il sera encore le plus jeune de tous les candidats possibles qui pourraient se présenter.
Oui. Non, moi je crois que
Charles Villeneuve.
Le président, enfin Emmanuel Macron, n'ignore rien des lacunes de son dispositif politique. Je suis intimement persuadé, et évidemment, nous on attend la nomination de ministres un peu plus robuste. Je crois qu'on pourra attendre longtemps, et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas qui a eu l'idée de lui souffler cette métaphore politique des 100 jours. Ah, on sait exactement comment s'est terminé les 100 jours, historiquement, par la défaite militaire, c'est vrai, de Waterloo, mais on sait comment ça a été le crépuscule de Napoléon.
Mais je ne suis pas sûre que celui qui lui a fait mettre ses 100 jours dans le discours pensait à Napoléon. C'était ce sujet des 100 jours, écoutez, depuis toujours, on dit que les 100 premiers jours, là où on décide des choses. Donc c'est comme si son quinquennat commençait aujourd'hui.
C'est les nouveaux 100 premiers jours.
Attends, l'objectif. Quand tu utilises une métaphore de ce type, sans objectif à lui, c'est l'apaisement. Et comment veux-tu, dans l'état où est l'opinion publique désespérée, désabusée, absolument contre, obtenir au bout de 100 jours un objectif aussi ambitieux?
Il a fait comme la cathédrale il a dit 5 ans comme la cathédrale, la cathédrale Notre-Dame.
Lorsqu'il a visité la cathédrale et qu'il a dit moi je ne lâche rien, il aurait dû au contraire dire regardez, il y a 4 ans on pleurait et il aurait fait quelque chose d'apaisant,
je voudrais en profiter puisque vous avez ouvert la voie, Pierre, sur la présidentielle, en laissant entendre que dans 2 ans, on serait déjà quasiment dans la campagne présidentielle. Il y a un homme quand même dont on commence à parler beaucoup, qui est de savoir si Laurent Berger, l'homme de l'intersyndicale, l'homme qui sera ou non un possible candidat. Et ça me fait...
Il dit non, il le répète.
J'ai lu l'enquête d'ailleurs Raphaël Baquier dans Le Monde, qui est une très bonne enquête, effectivement. Je pense qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il veut faire pour l'instant, et je ne pense pas qu'il ait tellement envie d'un destin présidentiel. Mais il me fait penser irrésistiblement à quelqu'un qui, à un moment donné, a occupé le terrain, c'est Jacques Delors. Il y a un peu un profil Jacques Delors.
Oui, mais enfin, il avait un bilan Europe qui était supérieur à celui de M. Berger.
Il y a plus 7 sur 7, donc on ne saura pas s'il y va ou pas.
Et puis, il voulait être président sans être élu, quand même.
Oui, je pense peut-être que c'est un peu un homme comme ça. Je crois que les hommes providentiels dont on nous parle 3 ans ou 4 ans avant une élection, en général, ça arrive rarement. Et c'est effectivement, je pense que Berger, c'est un météore qui passe, mais pas pour l'élection présidentielle.
Mais ça, le météore, c'est une construction journalistique. Certains Aujourd'hui, on a dit c'est la victoire des syndicats, ces grandes manifs et tout ça. Bon, alors c'est vrai qu'ils ont capté. En général, les syndicats, ils suivent la foule. Et la foule était contre, elle ne voulait pas travailler plus. Donc, ils ont profité de cette foule et ils se sont unis pour être derrière. Mais Laurent Berger, en privé, les ministres le disent, savait qu'il fallait augmenter la retraite, qu'il fallait faire quelque chose. Mais il était absolument tenu par les militants, par son congrès, qui lui avait dit qu'il fallait rien faire. Alors, quand on dit qu'on est réformiste et qu'on veut rien faire, faire des propositions, c'était, les propositions au gouvernement, c'était reculer. Ne votez pas la loi. Qu'est-ce qu'il a apporté? En quoi il est réformiste?
Je trouve que dans le côté dramatique des choses, dans le côté théâtre, toujours de la politique, l'affrontement entre le président de la République et le patron de la CFDT a été capital dans cette histoire de retraite.
Par l'intermédiaire de petites phrases, ils ne sont pas retrouvés sur un plateau.
Pas seulement. On sait que maintenant, on sait que ça fait très longtemps qu'en réalité, Berger n'aime pas, a des problèmes avec Macron. Et notamment, il a eu des problèmes avec Macron au moment de la loi Macron, où il s'est retourné à un moment donné contre Hollande, en disant à Hollande, ça, moi, j'accepte pas. Et Hollande a dit à son ministre, on n'accepte pas, on revient en arrière. C'est-à-dire qu'il avait un pouvoir sur Hollande, et sur, sans doute, à cause du fait qu'un syndicat réformateur a quelque chose de proche avec un gouvernement socialiste. En tout cas, il n'avait pas ça avec Macron. Et au fond, on a l'impression que les deux personnes, comme ça, ont déterminé l'impasse. Je trouve que c'est intéressant de voir que
dans
ça
les grandes voies.
Tu nous racontes une histoire d'égo.
On parle d'éducation nationale dans un instant avec les mesures de Pape Gaïa tout de suite.
Les grandes voies d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau, l'autre sujet, c'est l'éducation, celle de nos enfants et donc l'avenir de notre pays dans ce monde. Dans une interview au Figaro, le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, qui jusqu'alors n'était pas très prolixe, a annoncé vouloir favoriser la mixité sociale dans les établissements privés et promet des sanctions pour les établissements qui ne respecteraient pas un certain quota, Gérard Carreau.
Oui, là, dans un premier temps, les bras me sont tombés. Je me suis dit, c'est pas possible. Ce ministre, dont on sentait bien qu'il était là pour faire quelque chose, on se disait, on le voit pas beaucoup, mais il est sûrement là pour faire quelque chose. Et puis là, tout d'un coup, on a compris. Vous savez, la démarche de l'ultra-gauche, ou des ultra-associations de tous bords, etc., c'est toujours pareil. C'est on s'infiltre, et là il s'est infiltré, il est devenu ministre. Pendant des mois, on a dit, mais tiens, on ne l'entend pas beaucoup, Pape Ndiaye, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis là, tout d'un coup, entre-temps, il a nommé des gens, vient d'en nommer au Conseil de la laïcité, où justement il a dénaturé l'esprit de ce Conseil de la laïcité qui avait été créé par Blanquer, son prédécesseur, pour mettre des gens qui sont des antiracistes, etc., de telle manière qu'on dénature le concept. Et il nous fait l'apothéose, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Il propose de casser une chose, et il n'y a pas 36 000 en France aujourd'hui, une chose qui marche bien dans le domaine de l'éducation des enfants, c'est l'école privée. L'école privée n'a jamais aussi bien marché depuis qu'elle a effectivement survécu à quelques tentatives, dont celle du gouvernement Mitterrand, enfin du gouvernement Maurois sous Mitterrand. Cette école privée, on essaye de la présenter. Et moi, je suis un enfant de la publique, alors je défends le privé, parce que je pense aujourd'hui qu'elle joue un rôle fondamental dans la société. La meilleure preuve, c'est pas l'école des bourgeois. Il y a des bourgeois, bien sûr. Il y en a peut-être 40%, j'en sais rien. Mais dans les banlieues, et là j'en appelle à tous les gens qui écoutent, dans toutes les banlieues, on s'aperçoit que les gens qui veulent mettre leurs enfants dans l'école privée, souvent, ce sont les plus pauvres. Ce sont des gens qui sont dans les communautés musulmanes, ce sont des communautés d'immigrants qui sont arrivés il y a quelques années.
Ils veulent que leur enfant réussisse
parce qu'ils ont cette envie formidable que leur enfant réussisse, et ils se disent, si je le laisse dans le public, c'est la pétaudière, donc je le mets dans le privé. Et ben c'est pour ça que M. Pape Ndiaye se fixe comme mission de casser l'enseignement privé. J'espère qu'il sortira vite du gouvernement.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que lui a mis ses enfants à l'école alsacienne.
C'est justement. Il y a deux choses que je ne comprends pas. Moi, je pensais qu'il allait restaurer justement la qualité de ce qui a été l'école républicaine, qui a produit quand même un nombre de personnalités formidables, ne serait-ce que sur le plan politique, notamment à gauche, bien sûr, mais pas seulement à gauche. L'école publique a été une grande école. Et je pensais que lui, ministre, Pape Diane, mis par un président de la République que je ne comprends absolument pas, parce que comment a-t-il pu sortir du brouillard? On met Blanquer avec tout ce que ça implique et on change. Aux antipodes, on va chercher Pape Diane qui...
Tu permets que je t'interrompe? Quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu peux mettre Pape Diane? Il a répondu, oui, c'est vrai, c'est un risque.
Bon. Oui, c'est un risque, c'est bon. Vrai.
En tout cas, le risque qu'il prend, c'est de rallumer la guerre scolaire, la guerre entre le public et le privé, alors que justement, le ça privé marche. Essayons de faire que le privé, que le public marche aussi bien que le privé. Et la preuve, c'est qu'il a mis ses deux enfants, c'est lui-même qui l'a dit, dans une école privée, assez chère d'ailleurs, qui s'appelle l'école alsacienne. Et s'il les a mis là, c'est parce qu'elle marche. Alors, veut-il finalement casser ce qui marche et ne pas restaurer ce qui ne marche pas?
C'est pas le Premier ministre avoir fait ça. Monsieur Payon, à l'époque aussi, avait ses enfants dans une école privée et religieuse.
Et ça, je m'adresse presque à Karine.
Alors qu'il voulait la laïcité, etc.
Je pense que le président de la République, finalement, n'est pas un partisan de l'universalisme. Je pense qu'il a plutôt...
Enfant de la Providence, les jésuites, vous voyez, avec Brigitte,
il a la même réaction qu'a eu Mitterrand, in fine, sur l'école publique. Je voulais dire deux choses quand même, peu importe. La première, c'est que toucher à l'école publique, à l'école privée en ce moment, ça, franchement, faut vouloir le faire. On sait que c'est le domaine sur lequel s'embrase le plus la France. C'est vraiment... J'espère que quand même quelqu'un lui dira, écoutez, on verra pour l'école publique, d'accord. On verra pour l'école privée. Et deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui pratiquent déjà, justement, qui font entrer des jeunes filles voilées, par exemple, dans les institutions catholiques, parce que, au contraire, il n'y a pas d'obligation de ne pas avoir de voile. Il y en a beaucoup qui choisissent des élèves qui travaillent très bien, des élèves plutôt pauvres, qui choisissent très bien, et qui travaillent très bien, et qu'ils incluent dans leurs écoles privées, ce qui leur fait d'ailleurs un classement plus intéressant, sans les faire payer. Moi, j'ai des exemples de ça à Nice, j'ai des exemples de ça ailleurs. C'est-à-dire que l'école privée essaye quand même, en ce moment, de profiter de la difficulté des écoles publiques.
Mais tout ça est vrai et prouve que d'elles-mêmes, les écoles privées montrent qu'avec une certaine dose de mixité, en prenant des élèves qui sont méritants, ça peut être une richesse. Mais ça, c'est à chaque établissement de le décider. Et ce qui est terrible, c'est quand l'État veut s'en mêler. C'est là que tout déraille et que tout dégénère. Et donc, qu'il ne s'en mêle pas, parce que ce sont des choses qui se font déjà.
Oui, il souhaite faire, car il est pétri de la gauche américaine, ce ministre.
Voilà.
Il est allé à Atlanta.
C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un échec patent aux États-Unis dans les années 70. Moi, je me souviens d'y être à ce moment-là. C'est le busing. C'est-à-dire que au nom du même raisonnement que Papandai, on disait il faut prendre des enfants noirs dans les banlieues noires, les transporter en autobus à 90 km pour qu'ils puissent être avec des blancs. Ça a été un échec retentissant. Toute cette opération-là, et les Américains y ont renoncé. Il veut faire un truc du même genre.
Pour la mixité sociale, on va prendre des enfants dans telle banlieue et les mettre...
Bon, voilà.
Moi, je n'irai pas sur le terrain du busing. Bon. Mais je crois que le président de la République française a une conception assez anglo-saxonne qui repose avant tout sur la primauté individuelle. Le communautarisme ne le gêne pas, manifestement. Et je crois qu'il n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait, sincèrement, en France.
Une pause et on revient avec les grandes voix. On va parler de l'autoroute A69. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix. Quand il y en a plus, il y en a encore. Cette fois-ci, c'est du côté du petit village de Seix, dans le Tarn, que les projecteurs sont braqués aujourd'hui et tout le week-end. Manifestation d'associations de défense de l'environnement contre la construction de la 69, qui est prévue pour relier Castres à Toulouse. Projet qui est d'ailleurs un serpent de mer vieux de 25 ans, Gérard Carrérou.
Oui, alors je ne connais pas ce projet. Enfin, je le connais, c'est parce qu'on en a dit les médias. Mais je pense après tout qu'on peut discuter, on peut se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une autoroute qui économise 20 minutes pour entre Toulouse et Castres, alors qu'il y a déjà la route, n'est-ce pas ? On peut en discuter, bon, mais simplement, parce que, un, il faut dire, c'est qu'on ne peut pas effectivement tolérer qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est-à-dire des manifestations du
ou à Notre-Dame-des-Landes.
Alors, simplement, voilà, mais ça m'amène au deuxième point. Aujourd'hui, certains disent l'État va plus pouvoir faire grand-chose parce que dès qu'il y a un projet de route ou un projet de centrale nucléaire, il suffit de trouver deux associations et deux douzaines d'écolos un peu ou de gens du coin qui sont sensibles au sort des limaces de la catégorie je sais pas quoi pour que ça paralyse un projet. Et ça, l'État s'est mis effectivement une balle dans le pied avec Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'en 10 ans, malgré tout ce qui avait été fait, malgré les votes, malgré les autorisations, malgré le référendum, l'État en note, et ça c'est la responsabilité majeure, pardon de mon rhume, la responsabilité majeure de Hollande, c'est d'avoir effectivement, et de ceux qui ont pris la décision, y compris Édouard Philippe. Pardon, je ne peux pas continuer.
Non, mais c'est Catherine un Day. Peu comme Notre-Dame-des-Landes. La population a été consultée. 75% des gens consultés sont favorables à cette autoroute. Parce qu'évidemment, 53 km, c'est pas une grande autoroute, ça va décongestionner, mais ça évite... Alors, on dit que ça ne va pas être fréquenté, mais ça pourrait l'être, parce que ça permet l'attractivité économique du bassin de Mazamet et Castres. Et là, qui est très favorable à ça ? C'est d'abord le groupe pharmaceutique Fabre, qui pourrait faire venir d'autres entreprises. Enfin, voilà, c'est pour...
C'est pour le business, c'est pour l'emploi.
Oui. Justement, il y a un vrai problème de ce point-là avec la décroissance. Hein. Parce que quand même, ce qu'on demande, grosso modo, je ne vais pas faire des différences entre écologistes, mais en gros...
C'est plutôt c'est grosso que modo,
moins,
tu vois.
Faut moins manger, faut moins produire, faut pas d'industrie. Alors, mais franchement,
il faut plus de grenouilles,
la décroissance... À la décroissance au programme, oui. Je ne suis pas sûr qu'un gouvernement puisse tenir longtemps, quel que soit le retentissement de ces vers, qu'un gouvernement puisse tenir longtemps avec ça.
Et regardez comme c'est incroyable, au même moment, la coalition en Allemagne d'Olaf Scholz vient de donner son feu vert autoroutier à 144 projets, alors évidemment d'aménagement, de construction et tout ça, avec les Verts qui sont d'accord. Vous voyez bon.
Ils sont aussi d'accord pour un tiers de charbon dans les centrales
à
charbon.
Oui, il faut dire aussi. Oui.
Ils ont un parc éolien qui ne marche pas.
Bon, finalement, quand
mais
on résume...
Avec la chaleur, il y a moins de vent.
Charles Villeneuve.
Est-ce qu'on résume tout ce que nous venons d'entendre, c'est que de plus en plus de grands projets structurants qui permettent de désenclaver les territoires, ça fera plaisir à Christophe Guilly, qui a fait un livre et deux livres même là-dessus, sont contestés en France. Ça a été vrai. Tu as fait, Gérard, allusion tout à l'heure à Notre-Dame-des-Landes, au barrage de Sivens. Faut-il rappeler tous les grands projets ? La ligne TGV Lyon-Turin, qui est contestée de plus en plus. C'est ce qu'au nom du changement climatique, on va finalement être ultra timide sur le désenclavement des territoires. Oui, et l'affaire Mazamet-Castres, pour toutes les raisons que vous avez exposées, c'est exactement
c'est ça.
Ce qu'on recherche, c'est le désenclavement. Bon, c'est le signe quand même d'un pays qui n'est pas sur le progrès, mais sur le repli. C'est manifestement ça. Si on cède à ça, bon, c'est vrai, parce que là, vous avez vu, la mobilisation des groupes les plus radicaux se fait de plus en plus par les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le ministre de l'Intérieur envoie 800 gendarmes et CRS pour justement sur ce projet d'autoroute de Castres.
Puis on peut pas, il y a un double langage complet. On ne peut pas parler de réindustrialisation nécessaire. Si à tous les moments où on essaie de réindustrialiser et d'organiser des zones plutôt développées, il y a une minorité, parce que c'est quand même une toute petite minorité. On a l'impression que maintenant, ils sont partout. C'est une toute petite minorité qui, quand même, empêche une croissance, je ne veux pas, une croissance de...
Soutenue par une partie de la presse.
Oui, bien sûr.
Et pas n'importe quelle, laquelle de presse.
Oui, mais pour les écologistes, qui dit autoroute dit plus de voitures.
Oui.
Donc, et c'est contre, disent-ils, la loi climat. Donc, ils avancent en disant, vous votez des lois pour réduire...
Non, mais si tu ne peux plus assurer les liaisons rapides entre les grandes métropoles et les villes moyennes,
mais les villes moyennes demandent toutes à se faire désenclaver.
75% des habitants sont favorables. Voilà.
Voilà pour cette semaine. Merci beaucoup les Grandes Voix. Merci à vous Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On se retrouve bien sûr dans la joie et la bonne humeur la semaine prochaine à 10h. Et bien sûr, vous pouvez écouter l'émission en replay avec les replays d'Europe 1. Voilà, sur le site europe1.fr. Tout de suite, c'est Laurent Mariotte. Bonjour Laurent.
Bonjour Pierre et bonjour les Grandes Voix.
Bonjour.
Écoutez ces jolis noms. Chavignol, Pélardon, Rocamadour, et bien ce matin, on va faire le tour de France des fromages de chèvre. Oui, c'est la saison, et Olivier Marchal nous rejoint pour le plat du jour. Pas un bœuf carotte, mais un beau plat du Gers. A tout de suite.
A tout de suite.